Chers amis, nous allons, comme cela a été annoncé tout à l'heure, reprendre ce texte de base à notre réflexion sur les quatre roues motrices de l'Église locale, d'une Église en marche, deux rois, Ancien Testament, deux rois, chapitre 6, versets 1 à 7. Je vous laisse tout le temps qu'il faut pour prendre le passage, de manière à ce que vous puissiez m'accompagner dans cette lecture. Deux rois, chapitre 6, versets 1 à 7, où nous lisons. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez !» Et l'un d'eux dit, « Consent à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux, arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» Et l'homme de Dieu lui dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le !» Et il avança la main et le prit. Toujours dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, le cinquième rouleau de la loi mosaïque, Deutéronome, chapitre 19, simplement un verset dans le cadre de l'institution des villes de refuge, qui était l'ombre du seul refuge que nous trouvons aujourd'hui pour la vie éternelle, le Seigneur Jésus, à cause de sa mort sur la croix. Deutéronome 19, au verset 5, où il nous est dit, donc Deutéronome 19, verset 5, un cas de figure pouvant se produire et donnant son utilité aux villes de refuge. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache en main, il s'élance pour abattre un arbre. Le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Autre texte encore, dans l'Ancien Testament toujours, dans le livre de l'Ecclésiaste, donc psaume, proverbe, Ecclésiaste, au chapitre 10, Ecclésiaste chapitre 10, dans les versets 9 et 10, Ecclésiaste 10, versets 9 et 10, celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Et puis, comme toujours, nous passons dans le Nouveau Testament pour établir un lien entre les textes parcourus de l'Ancien et Éphésiens, ici, au chapitre 4, dont nous lisons le verset 30. Verset 30 à 32, Éphésiens 4, 30, 32. « où Dieu nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur ou toute fureur, toute calomnie, toute insulte, tout blasphème, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous faisant grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est du dérèglement, c'est ce qui mène au désordre et à la perdition. Soyez au contraire continuellement remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je le redis, aussi bien pour ceux qui ont suivi cette série jusqu'ici que pour ceux qui nous rejoignent, ce texte de 2 Rois 6, 1 à 7 ne nous donne pas un enseignement direct sur l'Église, puisqu'elle est un mystère caché pour le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, une de ces vérités que Dieu gardait en réserve pour son temps, pour son heure, celle de la Nouvelle Alliance, et qui a été partiellement dévoilé par le Seigneur Jésus, notamment dans Matthieu chapitre 18, sept grands enseignements sur les règles de fonctionnement de l'Église, et qui a alors été complètement dévoilé de manière extraordinaire, notamment pendant le ministère de l'apôtre Paul. Il n'est pas question de l'Église, mais cette petite anecdote, ce récit historique qui s'est passé tel quel, je le crois absolument, est une illustration, une forte suggestion quant à un certain nombre d'enseignements majeurs, fondamentaux, applicables à l'Église locale. Il nous aide, je suis persuadé que les amis qui ont participé à l'ensemble de cette série se rendent compte combien il est facile de retenir des enseignements majeurs contenus dans le Nouveau Testament sur l'Église quand on peut les appuyer sur un petit récit particulièrement frappant et suggestif comme celui que nous étudions. Nous avons donc considéré l'Église locale dans sa première roue motrice, une communauté de fils des prophètes. Une communauté de fils des prophètes. Et nous avons fortement souligné dans notre première étude avant-hier soir qu'une Église locale en marche est d'abord, aussi paradoxale que cela puisse paraître, une église locale bien assise. Assise, je dirais même, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, qui cultive une étroite relation avec l'Élysée par excellence, Dieu et salut, le Seigneur Jésus-Christ, qui est présent d'un bout à l'autre des Écritures. Communauté de fils des prophètes, d'hommes et de femmes, qui se placent continuellement, individuellement et ensemble, comme cela nous a été rappelé tout à l'heure, au pied du Seigneur et de sa parole. Une communauté enracinée, bien fondée, dont le conseil de responsables veille quant au choix des pâturages dans lesquels le peuple de Dieu au plan local pourra brouter la bonne herbe d'en haut pour être un peuple fécond et en bonne santé. C'était là le thème de notre première rencontre. Deuxièmement, parce que assise, parce que bien enracinée, parce que bien fondée, parce que non composée d'enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, emportés par le goût du jour, par les modes du temps présent, communauté explosive, communauté contagieuse, communauté envahissante, communauté qui se lève et qui répond à cet ordre suprême du Seigneur Jésus ressuscité. Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur, baptisez-les, allez. Communauté explosive, contagieuse, envahissante, à l'évangélisation multicolore, communauté extravertie et en particulier, nous l'avons fortement souligné, communauté qui veut avoir dans son évangélisation, dans son témoignage local, un label de garantie. Ce label portant un nom tellement porteur de richesse, Jésus-Christ lui-même. Viens avec nous. Nous ne saurions partir au bord du Jourdain sans toi. Accompagne-nous. C'est toi que nous voulons suivre. C'est toi que nous voulons au cœur de notre activité. Et le texte nous dit que Élisée très sobrement de répondre, « Eh bien, j'irai. » Et il partit donc avec eux. Et nous avons donc évoqué dans notre deuxième rencontre hier après-midi ce que nous pouvons appeler l'éthique biblique d'une saine évangélisation. Une évangélisation qui s'appuie sur ce que les Écritures disent de l'évangélisation. Une évangélisation dans laquelle chaque disciple de Christ circule avec Jésus-Christ dans sa vie tout d'abord, puis dans son message. C'est ce que nous avons longuement développé hier après-midi. Et puis hier soir, dans cette troisième roue motrice d'une église locale en marche, nous avons considéré l'église locale comme une communauté d'actionnaires de l'amour, dans le sens qu'on utilise aujourd'hui en bourse, où l'on parle d'être actionnaire, d'acheter, de vendre des actions, d'être participant actif à la vie des sociétés, des entreprises, ceci dans le monde à ses risques et périls. Mais pas dans l'Église de Jésus-Christ. Être actionnaire de l'amour dans l'Église de Jésus-Christ, c'est ne jamais partir perdant. Il n'y a pas de risque qui puisse nous conduire à une quelconque destruction, à un quelconque appauvrissement, lorsque nous acceptons de participer à l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à vivre parfois une vie de difficulté, de souffrance dans le service, mais nous ne serons jamais perdants. Alors pourquoi avons-nous tant de peine à nous engager alors que dans tant de domaines de la vie, nous prenons des risques inconsidérés et y perdons des plumes? Dites-moi, folie de l'homme et hélas trop souvent, folie du disciple de Jésus-Christ qui n'a pas encore compris où est l'essentiel. Communauté dont chaque membre porte sa poutre. Nous prendrons là chacun une poutre. Et qui sait si ce petit mot a été martelé hier soir pour travailler nos consciences. Chacun, chacun, repris partout dans tous les textes examinant cette question des dons spirituels, des charismes. Et c'était là le grand terme utilisé hier soir, l'expression de la charisse, de la grâce, de la générosité inouïe de notre Dieu, qui a accepté, lui, le premier, nous ouvrant un chemin, de porter sa poutre en Jésus-Christ, sur la terre, jusqu'à la mort de la croix. Le premier charisme de Dieu, c'est la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Et nous l'avons souligné, chacun doit exercer le don que le Saint-Esprit lui attribue, et il y en a une infinie variété. Mais il doit le faire en regardant à celui qui est la source des dons, et qui est le modèle, un modèle extraordinaire d'amour, de sainteté, de justice, de générosité. Dieu lui-même manifesté en Jésus-Christ. Et je le remontre. Regardez-la bien, elle est là. Hein? Ça, c'est la mienne. J'ai demandé qu'on ne m'en prépare pas une trop lourde, que j'aurais eu de la peine à hisser à ma hauteur. Ça, c'est aussi la bonté de Dieu. Quand Dieu nous équipe, il s'est équipé selon la mesure de foi qu'il a départie à chacun. Le Seigneur ne vous donnera jamais à porter une poutre qui serait trop lourde pour vous. Mieux encore, soyez assurés que dans votre service avec lui, il la portera toujours avec vous. Parce que votre poutre, en réalité, c'est la sienne, celle dont il vous fait gérant dans son œuvre. Voilà ce que nous avons partagé hier. Alors nous arrivons à notre quatrième roue motrice. Nous avons évoqué quatre pneus aussi, qui doivent être gonflés à la bonne pression, pour que le véhicule église locale roule de manière harmonieuse, recommandable, et qu'il n'ait pas besoin d'être arrêté de temps à autre par la maréchaussée pour des problèmes de pneumatique notamment. Pourquoi parler de pneus? Tout simplement parce que la quatrième roue motrice d'une église locale en marche, eh bien, je la traduirai de cette manière. C'est une communauté pneumatique. Pneumatique, pneuma. D'où vient le mot pneumatique, pneu, ce mot grec, qui signifie souffle ou encore esprit. Communauté pneumatique, c'est-à-dire pour nous de manière plus précise, une communauté remplie du Saint-Esprit. Une communauté remplie du Saint-Esprit. Essayons de comprendre à la lumière des Écritures ce que cela signifie à partir des suggestions émanant de 2 Rois 6, 1 à 7. Vous remarquez les versets 5 et 6. L'équipe arrive, cette école biblique, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Et j'aimerais souligner, dans le prolongement de ce que nous avons dit hier après-midi et hier soir en particulier, que c'est vrai, rien de tel que de se mettre au travail pour que les problèmes apparaissent. On dit à juste titre que seuls ceux qui n'essuient jamais la vaisselle ou ne la lavent jamais n'en cassent pas. Font-ils preuve de vertu pour autant? Ça, c'est autre chose. Il me semble que mieux vaut, dans une vie de famille, avoir un peu de casse, mais au moins avoir la collaboration de chacun dans ce service qui, généralement, permet de surcroît des bons moments de partage entre les membres de la famille qui peut-être se verraient moins souvent s'ils n'étaient pas réunis ensemble à un moment donné dans la cuisine. Rien de tel que de se mettre au travail pour que les problèmes apparaissent. Il me souvient, il y a quelques années, d'avoir traité ce thème en Belgique dans une église évangélique de la région de Liège. Et j'arrivais à cette quatrième étude que j'étais en train d'entamer quand je vois entrer dans la grande salle où se tenait cette série de rencontres un cher ami avec lequel j'ai fait mes études de formation théologique il y a une trentaine d'années. J'étais très réjoui de le voir, mais intrigué parce que en le lorgnant du coin de l'œil tout en continuant l'enseignement, j'étais quelque peu surpris parce qu'il avait un immense bandage qui couvrait notamment une de ses arcades sourcilières. Et il vint vers moi à l'issue de cette réunion dans laquelle je parlais du danger dans l'utilisation d'une hache. Elle me dit, mais Boris, tu ne peux pas t'imaginer ce que je me suis senti interpellé en entrant dans cette salle juste au moment où tu étais en train de parler des dangers que courent les utilisateurs de l'arche. Parce que c'est ce que je viens de vivre tout juste avant d'arriver à cette réunion. Elle m'a raconté comment, en cassant du bois avec son fils, il avait eu un problème avec sa hache et s'était fendu l'arcade sourcilière. Alors croyez-moi, s'il y avait quelqu'un qui a écouté le message de Dieu cet après-midi-là, c'était bien mon ami. Il se sentait très très concerné. Il y a deux applications au moins à ce que je viens de souligner. Deux applications qui m'apparaissent très importantes dans ce texte. La première est dans le cri de ce fils des prophètes. Ah, mon Seigneur, il était emprunté! Le texte original, le mot qui est utilisé dans le texte original, peut même être à la rigueur rendu par un mot plus fort encore. Ah, mon Seigneur, il était mendié. C'est-à-dire, j'ai eu beaucoup de peine à l'emprunter. J'ai dû supplier. Tu comprends, Élisée? Je voulais faire partie de l'équipe, je voulais travailler. Et j'ai eu énormément de peine et j'ai eu en face de moi une énorme résistance, une énorme réticence. J'ai dû supplier en disant, écoute, s'il te plaît, je peux même pas te donner quelque chose. Je dirais, mais tu veux bien? Et finalement, de guerre lasse, cette personne a accepté de mettre à ma disposition, mais elle a entouré ce prêt de conditions, d'exigences, ou si tu ne me le rapportes pas, tu ne peux pas t'imaginer ce que cet outil est précieux à mes yeux. Fais-y attention, traite-le comme la prunelle de tes yeux. Alors, tu comprends, Élisée? Vous savez, c'est toujours problématique quand on travaille avec un outil emprunté. Il m'est souvent arrivé de dire que je préfère travailler avec mes outils, malgré leurs défauts, parce que je connais mes outils. Donc je sais que ils ont un domaine où je dois faire plus attention. Et je le connais. Par contre, quand j'emprunte un outil à quelqu'un, s'il ne prend pas soin de me dire, tu sais, fais attention ici, fais attention là, moi je le connais, toi tu ne le connais pas, alors prends des précautions. Si jamais on ne me dit rien, je suis parfois quelque peu méfiant parce que des outils empruntés recèlent des pièges. Des voitures empruntées recèlent des pièges. Hein? Quand vous avez l'habitude de la vôtre, ah, on a parfois des surprises. Travailler avec une puissance empruntée. Et j'aimerais fortement souligner l'importance de dire non dans notre service pour Dieu, que ce soit au niveau de l'évangélisation, comme nous l'avons dit hier après-midi, que ce soit au niveau de l'édification du peuple de Dieu, du service dans l'Église. Non à une puissance empruntée. Pourquoi ? Bien, tout d'abord, tout simplement parce que travailler pour Christ dans l'Église, c'est s'exposer aux assauts de l'ennemi. De l'ennemi avec un grand E. Et je lisais récemment dans un livre remarquable de Francis Schaeffer, sorti il y a peu de temps, l'Église est engagée dans une bataille surnaturelle qui a une dimension céleste et non dans un simple combat terrestre. Sa lutte s'élève au-delà des conflits avec les hommes et les autres organisations, au niveau d'une guerre totale, engagée jusque dans la partie invisible de la réalité. C'est alors que l'Église est véritablement l'Église. Quelqu'un l'a dit sous forme de boutade, quand quelqu'un se convertit, Satan l'inscrit aussitôt dans son carnet d'adresse. Et quand quelqu'un décide dans l'église locale de vraiment travailler, eh bien je suis persuadé que le diable rouvre le carnet d'adresse d'une manière toute spéciale. Le diable s'intéresse à ceux qui travaillent. Ce n'est pas une raison pour ne pas travailler. Parce que c'est au travers de ces situations conflictuelles, parfois extrêmement difficiles, que nous grandissons spirituellement, que nous sommes transformés à la ressemblance de Christ, que nous nous préparons pour le ciel, beaucoup plus que dans les temps où tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc nous nous privons de possibilités extraordinaires de croissance spirituelle, avec tout ce que cela signifie, quand nous prétendons qu'après tout, quand on se tourne les pouces, ça va mieux que quand on travaille. Et bien entendu, quand on travaille et que l'on s'expose donc aux assauts de l'ennemi, Satan va chercher le point faible. Il va chercher la faille par laquelle il s'infiltrera pour bloquer l'Église et stopper sa croissance. Et c'est pourquoi nous n'avons pas le droit de tricher. De travailler avec une puissance d'emprunt. Dit d'une autre manière, de travailler simplement par imitation, sans plénitude spirituelle personnelle, sans la présence et l'action continuelle du Saint-Esprit dans nos vies, sans une coupe qui déborde, sans consécration personnelle. Nous évoquions dans le cadre de l'enseignement sur les charismes hier, Romains chapitre 12 notamment, dont les deux premiers versets qui introduisent le thème des charismes sont des versets qui invitent, qui exhortent, qui encouragent les membres du corps de Christ à offrir leur corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de leur part un culte conforme à ce que la raison demande. Offrande du corps, consécration personnelle. Nous n'avons pas le droit de prendre des raccourcis, de chercher les voies de la facilité et de vivre un certain amateurisme spirituel dans le travail pour Christ. Spurgeon, que j'ai souvent cité, écrit ceci dans un livre remarquable, Pêcheur d'hommes. « tout ouvrier sait la valeur du bon état de ses outils. Car s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Ecclésiaste 10:10. Michel-Ange comprenait si bien cette importance qu'il fabriquait ses pinceaux de sa propre main. Mon esprit, mon âme et mon corps constituent le cœur de mon équipement. Mes facultés spirituelles et ma vie intérieure sont ma hache et mes outils de combat. Est-ce que nous sommes bien affûtés? Ou est-ce que nous travaillons avec une puissance empruntée? Je pense à Billy Graham, qui donnait une conférence devant une assemblée de futurs responsables d'église. Et l'un d'entre eux de lui poser la question suivante: si vous aviez mon âge, dans le monde tel qu'il est, trouveriez-vous bon de passer tant d'années à faire des études de théologie? Et la réponse de Billy Graham surprit l'assistance. « Jeune homme, répondit-il, je ne vois pas de meilleure manière de passer votre temps que de développer en vous les dons que Dieu vous a octroyés. Si l'on vous disait d'aller dans une forêt et de couper des arbres avec une hache de bonne qualité mais émoussée, vous ne tiendriez pas pour perdu le temps passé à l'affûter? Prenez donc patience, aiguisez votre hache. » Alors nous aurions pu orienter, si j'étais dans un institut de formation biblique, j'aurais alors orienté maintenant l'enseignement sur l'importance d'une bonne formation. Selon ce que disent les Écritures, il est sûr et certain qu'on ne s'improvise pas moniteur ou monitrice d'école du dimanche. Les choses doivent aussi s'apprendre dans l'église locale. On pense parfois qu'il suffit de mettre quelqu'un sur une estrade pour en faire un prédicateur conforme aux exigences bibliques. Dans l'église locale, nous devons aussi nous former pour ne pas travailler pour Dieu n'importe comment. Dieu veut être honoré par la qualité de notre travail, et cela implique, dans bien des domaines, le souci d'une bonne formation, de travailler aux côtés d'aînés qui ont de l'expérience, de voir comment ils s'y prennent, d'accepter d'apprendre d'eux, de leur poser des questions, de leur demander conseil, de commencer petitement. Chose que l'on a fortement tendance à oublier dans l'église locale, pensant que puisqu'il s'agit de l'église de Jésus-Christ, que nous sommes entre enfants de Dieu, après tout, on peut bien travailler un petit peu comme ceci, comme cela, la bonne franquette, mais pas du tout. Je ne veux pas dire qu'il s'agisse pour chaque membre de l'église locale d'avoir 3 doctorats en théologie, en psychologie, en philosophie, et que sais-je encore. Non, pas du tout. Il est des hommes remplis de connaissances et qui sont d'autant plus bêtes qu'ils sont remplis de connaissances. C'est triste à dire. Ce n'est donc pas cela ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons travailler avec sérieux et être prêts à nous former, à ne pas brûler certaines étapes pour que le Seigneur soit vraiment glorifié. Alors nous aurions pu, mais nous n'allons pas trop développer cela, nous aurions pu prendre un certain nombre d'exemples dans les Écritures très intéressants qui nous montrent ce qu'il en coûte dans l'œuvre de Dieu d'utiliser une puissance d'emprunt. Parce qu'il y a des exemples flagrants, extrêmement forts, de serviteurs de Dieu ou de prétendus serviteurs de Dieu qui ont voulu travailler avec une puissance d'emprunt. J'ai sous les yeux une série de textes, 5 textes, mais il y en a d'autres. Je vais simplement vous résumer le contenu de l'histoire et je vous encourage à reprendre ces textes pour creuser quelque peu cette histoire des puissances empruntées. Un texte très intéressant que nous connaissons généralement quand nous lisons les Écritures, la confrontation entre David, le berger et le géant Goliath dans 1 Samuel au chapitre 17. Et à un moment donné de l'histoire, lorsque David est prêt à relever le défi du géant Goliath, le roi Saül, impressionné par l'attitude du jeune David, ordonne qu'on revête David de sa propre armure. Et on voit dans 1 Samuel 17, 38 à 40, David qui enfile sans doute très péniblement l'ensemble de l'armure de Saül et qui fait quelques pas dans cette armure. Et qui va faire preuve d'une grande sagesse, de beaucoup d'humilité et de bon sens. Bien qu'il ait sur le dos l'armure, le costume du président de la République de son époque, lui, le jeune berger, il ne va pas hésiter à lui dire « Majesté, ça ne colle pas. Tout cela n'est pas à ma taille. Je n'ai pas l'habitude. Permettez que je reprenne mes vêtements de berger. » Et David, humblement, sans que tout cela lui monte à la tête, va se dévêtir de cette lourde armure, va reprendre son vêtement de berger et sa fronde, va choisir très soigneusement quelques cailloux bien ronds, bien lisses, qui puissent bien fendre l'air et qui puissent se ficher dans le front du Philistin. Mes amis, si David n'avait pas eu cette juste attitude, il serait sans doute mort sur le terrain de bataille, parce que dans le domaine de l'armure, s'il y avait quelqu'un qui était plus fort que lui, c'était Goliath. Par contre, Goliath ne s'attendait pas un seul instant à ce que le jeune, ce gringalet de David, le considère comme un oiseau quelconque que l'on abat d'un coup de pierre. Voyez donc ici le mimétisme, le plagiat de quelqu'un qui n'a pas la même taille que vous. Il m'est arrivé de croiser dans mon ministère des croyants qui voulaient être des imitateurs de Billy Graham ou de telle autre personnalité. C'est à la fois très amusant et très dangereux. C'est vrai qu'il nous a tous chatouillés à quelque part d'imiter quelqu'un qui nous a beaucoup impressionnés. Heureux sommes-nous si très rapidement nous avons quitté le chemin de cet emprunt servile, de ce plagiat, de cette imitation. Nous n'avions pas la carrure, nous n'avions pas les dons, nous l'avons reconnu. Puisque j'ai un don de berger, eh bien je vais agir comme agissent les bergers. Plus tard, je deviendrai un grand chef militaire, c'est David qui parle. Alors, je combattrai en chef militaire. Voilà une première illustration. Un autre texte qui est tout juste dans les chapitres précédents, dans 2 Rois au chapitre 4, dans les versets 25 à 37, il s'agit de la résurrection du fils de la Tsunamite. Et on voit cette Tsunamite, cette femme de Dieu, qui a donné une hospitalité tellement bienfaisante à Élisée, qui a reçu en cadeau de Dieu dans sa grâce un enfant, et puis cet enfant meurt, et cette femme accourt vers Élisée pour lui exprimer sa situation, et Élisée a à côté de lui un stagiaire qui s'appelle Géasi, et il va mandater son stagiaire. Il est dit au verset 29, Élisée dit à Géasi, « Saint-Érin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » Alors il nous a dit, verset 31, que Gazi avait devancé, il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel. Il monta, se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui. La chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. L'enfant éternua sept fois, ouvrit les yeux. Élisée appela Gazi et dit, « Appelle cette Tsunamite. » Gazi l'appela, elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, elle prit son fils et sortit. Voyez un petit peu, là aussi, le problème de la foi et de l'autorité par procuration. Élisée qui pense, et là il s'est trompé, Élisée qui pense pouvoir communiquer son autorité à travers son bâton, par procuration à son stagiaire. Mais son stagiaire n'a pas la même envergure que lui. Il n'a pas la même spiritualité que lui. Et le chapitre 5 va le prouver, puisque Géasi va faire preuve de cupidité et qu'il va être frappé de lèpre. Et le résultat, c'est que lorsque Géasi se présente dans cette situation de détresse, rien ne se passe. Et Élisée va devoir se rendre compte ensuite, quand il va être au chevet de l'enfant, que le combat est beaucoup plus rude que ce qu'il pensait. Il va devoir aller çà et là, dans la prière, dans cette chambre. Vous avez vu comment il est obligé de s'identifier en quelque sorte à cet enfant. Hein, comment il pose ses mains sur ses mains, sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux. Il y a là tout un message d'identification, n'est-ce pas? La nécessité d'aimer en faisant corps, en luttant. Et c'est seulement là, alors, que Dieu intervient. Ainsi, Élisée a sous-estimé l'ampleur du combat à livrer et a surestimé les capacités spirituelles de Géasi. Et nous pourrions ainsi continuer, évoquer 1 Samuel 4, je ne vais pas le faire, l'Arche de l'Alliance, empruntée à Silo par un peuple d'Israël en pleine débandade spirituelle, alors qu'il livre un combat contre les Philistins et qu'il est en train de perdre. Et quand les Philistins voient arriver l'Arche de l'Alliance au cœur de l'armée d'Israël, ils disent « On a perdu, ça y est, si l'Arche de l'Alliance est là, nous sommes perdus !» Et en réalité, Israël a perdu. Et l'Arche sera prise par les Philistins. Là encore, il est question du fétichisme. Et vous savez, nous sommes si facilement fétichistes. Il n'y a pas besoin d'aller dans je ne sais quelle contrée d'outre-mer pour croire au fétichisme. Nous sommes fétichistes. Si facilement, nous croyons à une certaine magie spirituelle. Il suffisait là, semble-t-il, d'avoir l'Arche de l'Alliance pour être sûr d'avoir l'Éternel avec soi. Parce qu'il paraît que l'Éternel était enfermé dans l'Arche. On avait bouclé à double tour. « Ô Éternel, Dieu du ciel et de la terre, nous t'avons dans l'Arche et maintenant tu fais ce que nous voulons. » Plus tard, le peuple d'Israël a fait exactement la même chose avec le temple de l'Éternel à Jérusalem. C'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. Nous avons Dieu avec nous. Et Jérémie leur a répondu, ah, vous dites, c'est ici le temple de l'Éternel, vous croyez qu'on peut cadenasser Dieu comme ça? Allez voir à Silo où était autrefois l'Arche de l'Alliance. Vous y verrez les moutons broutés. Vous y verrez des chardons, des épines, des ronces. Voyez ce que j'ai fait de Silo à cause de la désobéissance d'Israël. Eh bien, sachez-le, ce temple deviendra une ruine, une ruine, une ruine. Parce qu'on n'enferme pas l'Éternel dans un temple. Fétichisme. Je pourrais vous donner tant d'exemples du fétichisme aujourd'hui. Quand on pense que parce qu'on prie beaucoup, Dieu est obligé de répondre à nos prières à cause des kilomètres ou des kilogrammes ou des kilotonnes ou des kilofrancs de prières. Quand on pense qu'il suffit de louer le Seigneur pour qu'obligatoirement le cœur de Dieu s'incline et qu'il réponde à tous nos souhaits, c'est du fétichisme. On peut devenir fétiche de la Bible. La Bible peut devenir un fétiche. C'est-à-dire qu'on peut attribuer à ce livre une vertu magique. Simplement parce que c'est la Bible. Alors on va le poser soigneusement chez soi parce qu'on se dit, si ce livre est là, je ne serai jamais attaqué par la puissance des ténèbres. Et nous pourrions prendre tant et tant d'autres exemples du fétichisme facile, de ces puissances d'emprunt dans nos vies. C'est pas la Bible en elle-même qui est importante. La Bible en elle-même, qu'est-ce que c'est? C'est du papier, des caractères imprimés et une couverture, plus ou moins solide et chère. La Bible n'a de valeur que dans notre relation et dans notre attitude vis-à-vis de Dieu lui-même. Sinon, elle devient fétiche. Et nous pouvons fort bien considérer la Bible comme un fétiche quand le matin nous nous levons et que nous nous empressons d'ouvrir la Bible. Non ! Parce que nous avons soif de relation avec Dieu, parce que nous avons peur que si nous n'ouvrons pas la Bible le matin, nous ayons des tuiles possibles et inimaginables pendant la journée. Donc la Bible devient un fétiche dans notre vie. Et nous avons simplement peur que notre mauvaise relation avec le livre ne nous fasse tomber des tuiles de la part de Dieu sur notre tête. Et nous pourrions ainsi continuer. Nous aurions pu considérer acte 5 que je développe longuement dans mon livre sur Barnabas, Ananias et Saphira, et la générosité apparente empruntée à un certain Barnabas alors que la consécration du cœur n'y est pas. Nous aurions pu évoquer acte 19, verset 13 à 20, ces exorcistes juifs itinérants qui pensent pouvoir chasser des démons en utilisant le nom de Jésus que Paul prêche. Et ce faisant, ils sont agressés par les démoniaques et ils s'enfuient maltraités et nus. Parce qu'on ne peut pas simplement utiliser le nom de Jésus que quelqu'un d'autre prêche si nous ne sommes pas personnellement en relation étroite et vivante avec Jésus-Christ. Alors c'est si facile là aussi dans nos vies de voir dans le nom de Jésus quelque chose qui a une sorte de caractère magique. Si le nom de Jésus marche dans sa vie, il doit obligatoirement marcher dans la mienne. Dieu dit non. On ne pouvait pas emprunter simplement une puissance à l'apôtre Paul en pensant que cette puissance était liée à la formulation magique du nom de Jésus. Nous l'avons lu hier soir dans 1 Pierre 4. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. 1 Pierre 4, 11. Si quelqu'un sert, si quelqu'un exerce les dons, les charismes, 1 Pierre 4, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Spurgeon a écrit ceci: sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes comme des voiliers quand il n'y a pas de vent, comme des carrosses sans chevaux. Nous sommes aussi secs que des branches sans sève, aussi inutiles que des charbons sans feu. Et un autre auteur que j'aime beaucoup écrira ceci: la seule puissance que Dieu reconnaît dans son Église est celle de son Esprit. Tandis que la seule puissance reconnue aujourd'hui par la majorité du peuple évangélique est la puissance de l'homme.
Dieu fait son œuvre par l'opération de l'Esprit. Alors que les dirigeants chrétiens essaient de réaliser les leurs par la puissance d'intellectuels doués. La personnalité brillante a pris la place de l'onction divine. Seul le travail fait par l'Esprit éternel demeurera éternellement. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il nous faut être vrais, transparents, vivre dans la lumière de Dieu, nous refuser au simple formalisme, à la duplicité, à la mascarade. Nous devons être limpides dans nos relations les uns avec les autres, dans nos relations avec le Seigneur, dans notre service. Mon service dans l'église locale doit jaillir d'un cœur purifié, d'un cœur parcouru librement par l'Esprit de Dieu. Ma puissance vient d'une vie remplie de l'Esprit. Et je ne dis pas que notre puissance vienne d'une expérience réalisée en 1972 ou en 1985 ou en 1994, comme certains le pensent. J'ai fait une expérience de tel millésime, et c'est un grand cru, savez-vous. J'ai enfermé Dieu dans une bouteille. J'ai enfermé sa puissance dans mon expérience. Ce jour-là, s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Vous savez, en Israël, on peut acheter des petites boîtes en fer blanc, genre filet d'anchois ou miettes de thon à la tomate. Ce sont des boîtes qui ne pèsent pas grand-chose, tout juste le poids du métal, qui contiennent un produit léger. Léger et pour cause. Il y a une étiquette décorée d'une étoile de David, et je lis ce qui est sur l'étiquette. Air pur, en provenance de la Terre Sainte, mise en boîte par la société X, Israël. Et au dos de la boîte, une autre étiquette prévient l'éventuel consommateur, attention, ne pas abîmer contenu irremplaçable. C'est pas ça, être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas pouvoir se prévaloir d'une expérience d'hier. Il est question dans les Écritures, dans Galates 5, 22, Éphésiens 5, 18, d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que je suis d'abord une sorte de canalisation, parcourue librement par le Saint-Esprit. Dans notre dernière lettre circulaire, je faisais allusion à l'histoire d'une fermière habitant en Belgique dans un hameau éloigné de tout et qui envoie cette plainte à l'administration. Je ne réussis pas à avoir l'eau courante chez moi avec suffisamment de pression. Que pouvez-vous faire? Et l'administration de lui répondre, cela ira mieux quand vous aurez une meilleure conduite. Bien entendu, elle voulait dire une meilleure canalisation. Mais le mot conduite est intéressant, n'est-ce pas? Parce que c'est ça notre problème. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est ne pas attrister le Saint-Esprit. Pour avoir une conduite qui honore le Seigneur. Et vous savez combien, jour après jour, nous avons besoin les uns et les autres de demander pardon au Seigneur. Parce que nous l'attristons facilement. Nous l'attristons facilement. Alors je termine. Et je termine en soulignant ceci, et ce sera le deuxième enseignement qu'émane ce texte de 2 Rois 6. Si la hache avait été la possession du fils des prophètes, l'incident aurait pu avoir lieu quand même, soulignons-le au passage. D'autre part, soulignons aussi, par souci d'exactitude biblique, que c'est vrai, nous ne travaillons pas avec une puissance qui nous appartient. Dans un sens, c'est vrai, nous travaillons quand même avec une puissance empruntée. Mais ce n'est pas une puissance que nous empruntons aux hommes. C'est une puissance que nous recevons de Dieu lui-même dans sa souveraineté. C'est vrai que le Saint-Esprit, en quelque sorte, peut être considéré en tant que personne et en tant que puissance empruntée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous n'avons pas le droit, dans nos relations avec Dieu et dans nos relations avec le Saint-Esprit, de faire comme si le Saint-Esprit était notre possession. Et certains parlent du Saint-Esprit comme s'ils avaient toute liberté pour le manipuler. Ils le capturent. Ils l'obligent à entrer dans leur système. Et c'est avoir bien peu de révérence vis-à-vis de la troisième personne de la Trinité, Dieu lui-même en esprit. Ce n'est pas moi qui possède le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui me possède. Je n'en fais pas ce que je veux, mais lui doit pouvoir faire de moi ce qu'il veut. Alors ce que je voulais dire en terminant, c'est que, bien entendu, la plénitude, le fait d'être rempli du Saint-Esprit se perd vite. Rien de tel que de vouloir servir et aimer pour réaliser mon incapacité propre, mon manque de patience, de persévérance, le découragement facile, l'esprit de critique, la médisance facile, la jalousie facile, l'énervement facile, le manque de tact facile. C'est vrai qu'il suffit de travailler pour, si vite, avoir le sentiment que le fer est en train de glisser, la plénitude intérieure disparaît. Si vite, on perd cette puissance d'en haut. On interpellait un jour l'évangéliste Moody en lui disant « Mais pourquoi parlez-vous avec tant d'insistance sur la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi en parlez-vous constamment ?» Et Moody de fixer son interlocuteur dans les yeux et de lui répondre « Mais tout simplement parce que je suis comme un récipient qui fuit. » Et c'est vrai. Il suffit de si peu de choses. Un regard qui nous irrite et qui fait germer en nous des pensées négatives. C'est si vite fait. Simplement dans le domaine de notre tête déjà, Dieu lit dans nos pensées. Et il est vrai que nos irritations intérieures, nos fantasmes intérieurs, ces péchés qui se développent au niveau de nos pensées suffisent pour que le Saint-Esprit soit attristé et que cette puissance d'en haut cesse d'être en action comme nous le souhaitons. Alors comment réagir? Et c'est là que nous avons alors un enseignement très direct dans ce texte. Eh bien, vous remarquez que le fils des prophètes s'écrie « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» Ça, c'est pour nous réveiller. Il ne se jette pas à l'eau. Il ne plonge pas tête la première. Non. Sa réaction, c'est de se tourner vers Élisée et de lui dire clairement son problème. « Voilà, Élisée, mon problème. » Alors, au lieu de nous dépatouiller dans la boue de nos infidélités, au fond de l'eau, pour essayer de récupérer la puissance nous-mêmes, comme justement si nous pouvions manipuler le Saint-Esprit, pourquoi ne viendrions-nous pas simplement à Élisée, c'est-à-dire au Seigneur Jésus? Pourquoi ne lui dirions-nous pas simplement, même à la fin de ce culte, « Seigneur Jésus, pardon, parce que je travaille avec une puissance empruntée. Pardon, parce que j'ai perdu le fer de ma hache. Pardon, parce que tu m'as repris dans tel et tel domaine et je me bats avec toi depuis des semaines, voire des mois, voire des années. » Et j'ai essayé de m'en sortir tout seul, j'ai essayé de plonger, j'ai manqué plusieurs fois de rester au fond. Et je n'ai rien récupéré dans la boue. Alors simplement je te le dis, Seigneur. Voilà mon problème. Je te l'avoue tout simplement. Vous avez remarqué quelle est la réaction de l'homme de Dieu? Au passage, il l'appelle Seigneur. Hein? Ah, mon Seigneur! C'est-à-dire qu'en faisant cette démarche, notre ami fils des prophètes pense qu'Élisée, qu'il a vu faire des miracles, peut agir en sa faveur. Il croit dans la capacité spirituelle de cet homme de Dieu qu'est Élisée. Et ça, c'est important. Si je crie au Seigneur en lui confessant mon péché, il importe de croire que vraiment tout a été payé sur la croix. Que le problème de mon péché a été réglé, que le sang de Jésus a coulé pour moi sur la croix, et en quelque sorte, quand je crie à lui pour qu'il me sorte de cette situation, en confessant mon péché, je le confesse aussi comme Seigneur. Seigneur, je veux que tu redeviennes le Seigneur de ma vie, et redeviens le Seigneur de ma vie déjà dans ce domaine précis, en t'occupant de ce problème. Et Élisée, de dire... Où est-il tombé? Ça, c'est ce qui se passe dans notre relation avec Dieu. Quand nous disons, Seigneur, je me sens vide. Je me sens au bout du rouleau. Je me sens tout découragé. Je me sens mal dans mon cœur. Ma conscience me travaille. Je ne suis plus en paix. Je me sens desséché dans mes os. Dieu dit à notre cœur, mais dit, Maurice, où as-tu perdu la puissance? Montre-moi. Dieu le sait. Lui, il sait où nous avons perdu la puissance. Parce que nous nous sommes disputés comme des chiens avec quelqu'un d'autre, parce que nous avons calomnié, parce que nous avons écrit une lettre que nous n'aurions jamais dû écrire, parce que nous avons trompé le fisc. Mais il nous dit quand même, dis-moi où tu es tombé. C'est pédagogique. Dieu veut nous faire toucher du doigt le problème dans sa réalité. Parce que c'est trop facile de dire simplement, nous avons commis des péchés. Notre frère nous a fait remarquer dans l'introduction qu'il y a 5 fois ce petit « nous » qui parle de l'importance de la coopération, de l'équipe, de l'Église. Mais vous remarquez que dans la fin du texte, le « nous » disparaît. C'est moi qui suis concerné avec mon propre péché. Mes amis, au pied de la croix, il n'y a jamais d'abord de la place pour 2 personnes. Ça commence toujours par 1. Si je ne suis pas prêt à venir tout d'abord seul au pied de la croix pour régler mon propre problème avec le Seigneur, je ne viendrai jamais ensuite avec quelqu'un d'autre. Ça me concerne moi d'abord. Le Seigneur me dit, Maurice, où est-il tombé? Et quand je dis, mais Seigneur, tu sais, si elle n'avait pas été comme ça, c'est pas ton affaire. Je te demande, toi, où est ta responsabilité? Je m'occupe de l'autre. C'est mon affaire, tu n'as pas à t'en occuper. Mais toi, où ta puissance a-t-elle disparu? Et le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs pour faire remonter tout ça, n'est-ce pas? À notre mémoire. Il sait exaucer certaines prières quand nous sommes droits de cœur. Et il lui montra la place. Seigneur, je veux te montrer l'endroit. L'endroit, il est dans ce tiroir, parce que dans ce tiroir, il y a une lettre. Il est dans cette bibliothèque, parce que dans cette bibliothèque, il y a un ouvrage. Si jamais tu lisais cet ouvrage... Il est dans mon programme vidéo, parce qu'alors, dans ces vidéos que j'ai enregistrées, vous comprenez? Toutes ces choses sur lesquelles nous passons Église de Jésus-Christ à la fin du XXe siècle, allègrement, en pensant que la sainteté de Dieu s'est quelque peu usée au fil du temps, croyez-vous que Dieu ait changé? Non. Dieu a le droit d'aller dans mon armoire, dans mes tiroirs, dans ma salle de bain, dans mon lit conjugal, pour dire, là, tu as perdu la puissance. Voilà pourquoi tu te sens maintenant mal à l'aise dans ton cœur. Voilà pourquoi je dresse des embûches sur ton chemin. Cesse d'aller chercher toi-même. Il lui montra l'endroit. Et alors, vous connaissez la suite. Quel message! Quel miracle! Je lisais dans un ouvrage tout récemment, dans un article, que quelqu'un disait, mais après tout, les fils des prophètes auraient pu se cotiser. pour acheter une nouvelle hache. On aurait pu lancer un appel, envoyer une lettre circulaire. Non. Non. Dieu va agir. Et Dieu va agir par Élisée en orientant notre regard vers la croix, vers le Seigneur Jésus. Parce que il est évident que ce fer de hache qui remonte du fond de l'eau à la surface, qui viole ses règles, ses lois de la pesanteur, à cause d'un morceau de bois jeté dans l'eau, cela nous ramène à Jésus-Christ. Celui qui violait les lois de la pesanteur en marchant sur les eaux. Et celui qui, dans sa mort sur la croix, a aussi, en quelque sorte, pardon de le dire ainsi, violé les lois de la pesanteur. Dans ce sens que sa mort sur la croix est parfaitement suffisante pour que nous soyons purifiés et pardonnés pour nos fautes les plus pesantes. C'est le Dieu du miracle. C'est le Dieu du miracle. Seul lui est capable de faire cela dans nos vies. Seul lui, seul Jésus a payé. C'est le miracle du pardon. La grâce de Dieu est plus puissante que toutes les pesanteurs qui nous enfoncent. Elle est plus forte que toutes les lois naturelles, plus profonde que tous les gouffres les plus profonds. Et tous ceux d'entre nous qui ont pu expérimenter ce pardon de Dieu dans certaines situations personnelles peuvent le dire. Comment Dieu les a relevés à cause de ce sacrifice de Jésus-Christ sur la croix qui est descendu plus bas encore que le plus vil des pécheurs peut aller. Et puis, ce verset 7 très bref, puis il dit: enlève-le, enlève-le. Il avança la main et le prit. Lève-le pour toi, reprends-le. Le pardon de Dieu n'est accessible qu'à ceux qui confessent, mais aussi à ceux qui croient. Non pas à ceux qui cultivent une confession permanente, une véritable lamentation, un gémissement qui n'en finit pas et qui de semaine en semaine redisent encore: « Seigneur, j'ai péché, je suis coupable, pardonne-moi », mais qui laissent le fer flotter. Encore faut-il s'en emparer. Encore faut-il croire ce Seigneur sur la base de sa parole. Et par la main de la foi, saisir ce qui est son pardon, ce qui est sa restauration, ce qui est une sorte de restitution, et pouvoir ainsi connaître à nouveau dans sa vie cette plénitude qui n'est pas accessoire ou réservée à une élite, mais qui est la condition d'une vie chrétienne normale. S'emparer par la foi. L'autre n'eut qu'à tendre la main pour le reprendre, dit la Bible du semeur. Au cœur d'une vie d'église équilibrée se dresse toujours la croix. La croix du calvaire, le pivot, l'axe de la grâce, autour duquel tourne la santé et l'efficacité de l'Église locale. Heureuse l'Église qui remet toujours la croix au centre de sa prédication et de sa vie concrète. Et une Église qui remet toujours la croix au centre de sa prédication et de sa vie concrète, c'est une église locale dans laquelle on sait se demander pardon. On sait confesser. On sait vivre dans la transparence, dans la lumière. On sait renoncer à soi. On sait vivre dans la grâce. Il n'y a pas de vie de résurrection et de puissance qui ne passe d'abord par la croix, le renoncement, l'humiliation, dire non à soi-même, prendre sa croix. Tout cela est compris dans cette quatrième dimension d'une église locale en marche. Et c'est fondamental. Alors la question que je vous laisse, elle est toute simple. Hier soir, nous l'avons dit. Où est ma poutre? Qu'en est-il de ma poutre? Et à la fin de ce culte, je dirai simplement de la part de Dieu, mais mon bien-aimé, qu'en est-il de ta hache? Qu'en est-il de ta hache? C'est cela ce que le Seigneur nous dit. Mon bien-aimé, mais qu'en est-il de ta hache? Alors la hache, elle est là. Elle est là, elle est aussi adaptée aux forces musculaires de celui qui la porte. Qu'en est-il de ta hache? Que Dieu nous parle. Que Dieu se serve, s'il le faut, de nos nuits pour que nous voyions la hache dans notre sommeil. Et que cette pensée ne nous abandonne pas jusqu'à ce que nous ayons dit au Seigneur, « Ah, mon Seigneur, voilà mon problème. Voilà où je suis tombé, mais je veux me relever. Je compte sur toi. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, je peux tout te dire. Et je peux saisir le pardon, la restauration, le renouvellement du Saint-Esprit par la foi dans ta parole, dans tes promesses, parce que tu es le Dieu fidèle qui ne ment pas. » Nous voulons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour cette petite anecdote, cet incident historique, pourtant si pénétrant, si riche pour nous faire comprendre certaines de tes pensées clés pour ton Église. Seigneur, merci tout d'abord pour le don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la personne de ton Fils Jésus-Christ, qui la rend précieuse à notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui nous centre sur ton Fils bien-aimé. Et nous te bénissons pour son beau ministère. Nous te demandons pardon parce que c'est vrai que nous attristons facilement ton esprit. Mais merci de nous avoir redit pendant cette réflexion le chemin à emprunter pour connaître à nouveau dans notre vie cet équipement si nécessaire, cette plénitude intérieure, cette possession de nos vies par ton esprit, cette marche sous son autorité, pour un bon service, pour un bon témoignage, pour une bonne relation avec nos frères et sœurs, et pour une bonne évangélisation au dehors. Merci, merci de tout cœur de nous aider à serrer ces paroles dans nos cœurs, et à les appliquer à notre situation concrète du moment. Pour la gloire de ton nom, à cause du Seigneur Jésus, sans lequel tout cela ne pourrait être. Merci pour la croix du calvaire, merci pour le sang de Jésus, merci pour son efficacité, merci pour le pardon, merci pour le renouvellement continuel que nous pouvons avoir grâce à la croix. dans le nom de Jésus. Amen.